Chapitre 7. Ce fut 3 ans plus tard que Dauzac, emporté de plus en plus dans un tourbillon, vit diminuer ses chances heureuses, car en dehors de son intelligence, de son savoir, de son adresse, la chance l'avait favorisé en mettant à sa portée des occasions que l'absence d'une délicatesse excessive rendait excellentes. Donc, pour des causes quelquefois étrangères à sa volonté, ses succès diminuaient. Il diminuait beaucoup parce que, grisé précédemment par sa rapide réussite, il perdait, en face des déceptions, le bon équilibre si nécessaire au succès. 1 an avant cette époque, il avait placé au nom de sa femme une somme de 500 000 francs, avec la possibilité pour elle d'en disposer en toute liberté. « Le mari s'efface dans cet arrangement, » dit-il gaiement. « L'argent est à toi, bien à toi, je n'ai rien à y voir. » Et si je ne pouvais plus travailler parce que ma santé entrerait en jeu ou que des embarras deviendraient entraves, il y aurait toujours pour toi et les enfants un bien-être assuré. » Elle le remercia avec effusion, mais il l'avait troublée. « Cher Fabien, grâce à Dieu, il ne s'agit pas de tomber malade. Mais te sens-tu fatigué? Alors vivons tranquillement, loin de la ferment qui s'impose ici. Liquide et installons-nous dans notre propriété. » Les enfants en seront ravis. Leur maison de campagne, assez simple, quoique élégante et bien tenue, était une des joies de Frédéric. « je l'aime » disait-elle souvent. « Tu ne la voudrais pas plus grande, plus luxueuse ?»« À quoi bon ? Je regrette toutefois qu'elle ne soit pas dans le pays idéal de la Riviera. De plus, le voisinage de M. d'Hautefort eût été très appréciable. » Nous l'aurions vu fréquemment car il nous aime bien. Nous, ne dis pas nous. Oh, son petit attrait de jadis est devenu une simple amitié. Serais-tu jaloux? Jaloux de Gerbert, un infirme, dit-il dédaigneusement. Tu ne le supposes pas, mais je ne l'aime plus. Pourquoi? Vous étiez si liés. Nous nous sommes blessés mutuellement et notre amitié s'est altérée quand je t'ai épousée. Il a pourtant été bien bon au moment de notre mariage. À cause de toi, n'en parlons plus. Est-il rare que des amitiés encore plus étroites se dissolvent? L'espèce d'antipathie de Fabien pour son ancien ami paraissait à Frédéric sans aucun fondement. Monsieur d'Hautefort la connaît-il? Se disait-elle. Il la connaissait en lui attribuant sa cause réelle. Le tort de Fabien envers un ami confiant et généreux. Tort reconnu et qu'on pouvait juger avec indulgence, mais qui avait humilié Dauzac. Chez un homme de son caractère, les blessures d'amour-propre ne se cicatrisent pas. Frédéric dut se taire sur son désir de se retirer à la campagne, car Fabien ne supportait pas facilement la contradiction. Il était plus occupé que jamais, plus absorbé, et sa femme remarquait une expression très anormale dans un regard ordinairement calme ou gai. L'inquiétude de Frédéric disparaissait à la première manifestation de gaieté, les tendances de son aimable caractère écartant aisément les soucis. Pourtant, elle écrivait à Madame de Paulin « Croyez-vous au pressentiment? J'ai par instant des idées sombres. Savez-vous où je me réfugie pour les dissiper? Sur le Palatin. Vous croyez que je ne comprenais pas bien le charme prenant de Rome? Et voilà que ce charme, après 3 années écoulées, me jette dans le rêve. Je le compare à une lumière qui prend la place des ombres. Vous qui approfondissez, vous qui vous élevez avec la beauté, vous me comprendrez sans que je puisse m'expliquer. » Ces pressentiments allaient devenir des réalités. Le premier désastre fut la faillite d'une banque où Fabien avait des intérêts importants. Le second, presque simultané, vint d'une spéculation à la bourse sur un renseignement confidentiel qui se trouva être faux. « Tu vois ma fameuse habileté, » dit-il ironiquement à sa femme, « 2 gros échecs simultanément et qui proviennent d'imprudence. Imprudent, moi? Deviendrais-je stupide? Je crois qu'un audacieux ne peut pas, dans certains cas, éviter les imprudences. Mais qui donc ne se trompe pas ?» dit-elle doucement. « Je ne me tromperai pas longtemps. Il faut se redresser et je me redresserai très vite. ajouta-t-il en serrant les poings comme s'il voulait emprisonner la fortune. Frédéric pensa aussitôt qu'une modification de leur train de maison s'imposait. Loin de récriminer, elle dit simplement « Quelques pertes ne sont pas la ruine, Fabien. Soyons assez sages pour vivre avec ce qui nous reste. Serons-nous malheureux parce que nous vivrons un peu plus simplement ?»«
Il ne s'agit pas d'être heureux ou malheureux. Il s'agit de ne pas compromettre plus sérieusement la situation. La diminution de notre train donnerait lieu à des commentaires qui nuiraient à la reprise, ou plutôt à la continuation de mes affaires. »
« En rien, ami. Nous dirons que ta santé demande le grand air, nous abandonnerons notre coûteuse installation parisienne et de la campagne, tu viendras chaque jour à Paris si c'est nécessaire. »
La maladie diplomatique, enfin. Qui donc s'y laisserait prendre? Pas dans le monde que je connais, je t'assure. Non, non, changer notre manière de vivre, c'est déchoir.
Déchéance dont je me soucie bien peu, dit-elle avec son joyeux rire. En quoi, d'ailleurs, est-ce déchoir que de régler sa vie sur ses moyens ?
D'Auzac marchait d'un air agacé.
« Toujours la même, ma pauvre Frédéric. Tu juges encore les autres d'après toi-même. Sois certaine que les jaloux se réjouissent actuellement de mes deux échecs. Ils sont enchantés que ma réputation d'homme très averti soit écornée.
À mon avis, jaloux et jalousie sont bien méprisables. »
Au sens moral, si tu veux, mais ce n'est pas la question. Pour réussir, ce n'est pas chose méprisable d'être mise en défiance, suite inévitable d'une jalousie haineuse.
De la haine pour toi, si bon, il faudrait être idiot.
Que c'est beau d'ignorer la vilenie humaine par excès de confiance, dit-il en l'embrassant. Il se remit à marcher sous l'empire d'une pensée qui le tourmentait et qu'il ne se décidait pas à formuler. Frédéric l'observait attentivement et comprit.
« Parle, Fabien, il y a un point que tu n'oses pas aborder. Dis vite. »«
Oui, c'est vrai, j'hésite. »«
Hésitation coupable avec ta meilleure amie, et amie, ce n'est pas assez dire. Confie-moi ce grave souci. »«
Me prêterais-tu les 500 000 francs qui t'appartiennent ? Ils suffiraient pour le redressement auquel j'arriverai rapidement. » Cependant, je puis échouer.
Prends, prends, Fabien. Mais, encore une fois, mieux vaudrait ne rien tenter et vivre plus modestement.
Merci, ma chérie. J'étais sûre d'obtenir ton appui tout en me désolant de te le demander. La nécessité, hélas, fait loi.
Il ne s'agit pas de nécessité, mais d'union entre nous.
Frédéric, sans aucune réflexion, avait cédé à son élan. Toute dilatée par la certitude de venir en aide à son mari, elle s'épancha avec ses parents.
« Vous comprenez, conclut-elle, combien je suis heureuse de l'aider avec un argent qui est à lui, en somme, plus qu'à moi. »«
Il est aussi à tes enfants, Frédéric. Ton mari est très habile, c'est entendu, mais ton avoir est néanmoins la sécurité de l'avenir. »«
La sécurité n'est pas compromise par deux échecs. Fabien, s'il se décide à prendre l'argent, agira avec certitude, il me l'a dit. »
Loral pensait que tous les joueurs parlent de certitude.
« Je suis inquiet d'un état d'esprit qui peut l'entraîner à perdre sa maîtrise, tu comprends ?»«
Perdre sa maîtrise ? Oh que non, il n'est pas homme à cela !»«
En attendant, la somme qu'il t'a donnée devrait être conservée. » Telle était son idée en prenant une mesure très sage.
Sans doute, à moins que les circonstances n'exigent le contraire. Si le succès prochain s'obtient, et il s'obtiendra, la somme sera plutôt augmentée que perdue.
Elle parlait avec ennui, car elle était lasse de ces discussions. Avec joie, elle cédait tout à son mari, mais entendait ne pas s'absorber dans des inquiétudes qui pouvaient se dissiper d'un instant à l'autre.
« La vie est belle, ne la gâchons pas !» dit-elle gaiement.
Ses parents, après son départ, causèrent avec beaucoup de tristesse.
« Je suis inquiet, très inquiet !» répétait Loral.
Il prit un registre et compta ses modestes économies. Avec quelle ingéniosité, quelle peine, il les avait réalisées.
« Un grain de sable sur la route !» dit-il en soupirant.
La ruine n'est pas à la porte, mon ami. Deux pertes ne sont pas un désastre pour gens très riches. Personne ne te demandera ton grain de sable. » Il me paraît évident que si Fabien reprend l'argent donné à sa femme, c'est que sa situation est plus grave qu'il ne l'avoue. Et puis, que veux-tu ? Je suis influencé par des propos qui m'ont été répétés. Fabien est en vue dans le monde financier. Nous vivons loin de ce monde, Henri. Directement, sans doute, mais dans notre petit monde, on s'occupe beaucoup des pachas de la finance et je ne suis pas sans connaître des modestes qui n'en sont pas moins compétents. En rentrant chez elle, Frédéric trouva une lettre de Rome. « Ma chère Frédéric, lui écrivait Madame de Paulin, je pense à vous tout particulièrement aujourd'hui. Jour de votre fête, dit le calendrier, et de loin, je vous la souhaite joyeuse. Comment ne serait-elle pas joyeuse avec votre caractère, car vos pressentiments, comme la plupart des pressentiments, se sont certainement dissipés. Monsieur d'Hautefort me parlait de vous dans son dernier mot parce que je lui avais fait part de vos idées sombres. Mais il ne vous voit que le sourire aux lèvres et le regard scintillant. Cher Frédéric, vous avez de bons amis en Italie et sur la Riviera, ne l'oubliez jamais. Que je sois dans les catacombes que j'aime ou au Capitole plein de souvenirs, je vous associe, vous et vos amusantes impressions, à mes propres visions. Je vous embrasse affectueusement et souhaite de plus en plus vous revoir ici. Décidez M. Dauzac à se calmer en affaires et à venir se retremper dans l'idéal. » Frédéric ferma rêveusement la lettre. « L'idéal, comme elle l'entend, il en est loin. » Quelques semaines après, elle apprenait à ses parents que son mari était entièrement satisfait. Il n'a disposé que de 300 000 francs qu'il remboursera prochainement. En attendant, garde précieusement le reliquat. Au milieu d'un bonheur sans nuages réels, à peine quelques ombres, la nature de Frédéric s'était épanouie dans une vie plus que facile. Si la jeune femme n'avait pas perdu les notions d'économie de sa première jeunesse, elle ne les comprenait plus qu'à l'état de souvenir, et les conseils raisonnables qu'elle donnait à son mari n'impliquaient pas un retour en arrière. Elle laissa glisser la recommandation de son père, d'autant que le reliquat, elle le savait bien, serait, le cas échéant, abandonné à Fabien. « Ne doutez pas des talents de mon mari, cher petit père, » dit-elle gaiement. Laura l'accompagna jusqu'à sa voiture, qu'elle avait laissée en face de l'observatoire. Il regarda la petite Citron filer sur le boulevard Saint-Michel et revint tristement chez lui. « Demain, Marie, j'irai voir l'ancien chef de Fabien qui m'avait donné sur lui de si bons renseignements. » Est-ce prudent, si ce chef a conservé des relations avec notre gendre et s'il n'est pas discret, ta démarche peut nous brouiller. Je prendrai le prétexte d'un renseignement pour parler à M. H. Je ne poserai pas de questions directes, tu comprends, mais verrai bien ce qu'il en pense en tournant autour du sujet. En quoi il se trompait, car le directeur vanta le flair de M. Dauzac sans laisser transpirer un doute ou un blâme. « Il a eu dernièrement quelques mécomptes, » dit légèrement Laura en se levant. « Chose inévitable quand on touche à des questions, ou plutôt à des affaires multiples. » Que pouvaient les braves gens pour enrayer la course de Dauzac ? Rien. Et Laura raisonnait sagement, avec une compréhension juste du caractère de Fabien, quand il redoutait que, dans l'insuccès, dans le désir ardent de réussir, son gendre ne perdît une maîtrise bien nécessaire. Néanmoins, durant plusieurs mois, Dauzac eut l'air délivré de nouvelles inquiétudes et Frédéric écrivait gaiement « Mes pressentiments se sont envolés, chère Irène. Vous êtes un bon prophète. Nous sommes au calme. Mes enfants se développent chaque jour. Je suis une femme heureuse. » Par malheur, une spéculation qui, réussie, pouvait d'un seul coup redresser la fortune, fut proposée à Dauzac. Toujours disposé aux audaces, il s'y lança à corps perdu et, sans souci de dernier scrupule, racola des fonds par d'imprudents emprunts. Des rumeurs sérieuses préparèrent le public à la catastrophe et Frédéric dut entendre des condoléances préventives, plus ou moins sincères. « Ma pauvre Frédéric, ne pouvez-vous retenir M. Dauzac ? On le dit lancé dans une voie inquiétante. » À mon avis, les voies de la finance sont toujours inquiétantes, répondit gaiement Frédéric. Mais, mon ami, on parle d'une ruine qui pourrait être totale si les craintes se réalisaient. Eh bien, mon mari se tournerait de notre côté. Vous savez comme il est savant, habile, consciencieux. Tous les financiers reconnaissent sa valeur. Je ne suis pas effrayé, croyez-le bien. Ah, si vous envisagez avec cette sérénité une aussi terrible éventualité, je n'y crois pas. Tant mieux pour votre tranquillité, répliqua Madame B. avec une légère ironie qui impatienta Frédéric. Pourquoi cherchez-vous à me troubler ? Dit-elle brusquement. Je ne cherche aucunement à vous troubler. Je vous avertis amicalement des bruits qui courent, avec l'espoir qu'il est encore temps d'arrêter votre mari. On n'arrête pas le talent qui marche. Frédéric, qui avait pris une pause combative, se mit à rire. En vérité, vous me mettriez en colère. Ne me fâchez pas, je saurai me défendre, moi et mon cher mari. Madame B. haussa doucement les épaules. Je vous trouve charmante quand vous devenez combative, mais trop jeune dans votre obstination. Ne pensez-vous pas que j'ai des raisons particulières pour m'obstiner ? En reconduisant sa visiteuse à la porte, elle ajouta à son sourire quelques mots malicieux. Monsieur B. n'est pas sans avoir connu des chemins raboteux. Il est loin d'être un audacieux. Oh, très loin, répliqua Frédéric en riant impertinemment. Elle courut dans sa chambre où elle passa de tristes heures. Elle n'ignorait pas que le moindre doute venant de sa part deviendrait matière à des commérages dangereux. Mais sa petite comédie avait dissimulé une lourde inquiétude. Madame B. était liée avec la femme de M. Gauvrier, cet homme dont se défiait tant Frédéric, mais dont les renseignements devaient être sûrs. Elle pleurait quand elle entendit la voix de son mari. Elle bassina rapidement ses yeux et se précipita pour le recevoir avec son air le plus riant. « Tu reviens plus tôt aujourd'hui. Fabien, tu es fatigué, je le vois. Cependant, tout marche bien, n'est-ce pas ?»« Tout, c'est trop dire. Pourquoi ta question ? As-tu entendu des méchancetés ?»« J'ai reçu la visite de Madame B. Elle parle de rumeurs fâcheuses et pense que tu devrais enrayer. »« Quelle commère que cette femme ! Enrayer quoi ? Que sait-elle ? Elle n'avait aucune mauvaise intention, je crois au contraire. D'ailleurs, j'étais toute prête à combattre. Je n'en doute pas, dit-il avec un léger sourire. Mais cette rapporteuse de mauvais bruit est liée avec Madame Gauvier, et je sais que Gauvier cherche à me nuire. Vous êtes brouillée tout à fait, tant mieux. Ne t'en réjouis pas, nous sommes sinon brouillés, du moins en froid. Et quoi que tu penses, ce revirement dans nos relations est malheureux pour moi dans les circonstances présentes. Quelles circonstances ? Mets-moi au courant, Fabien. Ne suis-je pas ta meilleure amie ? L'affection qui te soutiendra dans la mauvaise fortune ? Au courant des circonstances, répéta-t-il d'un air distrait. Plaise à Dieu que tu n'y sois pas trop tôt. Il entra brusquement dans son cabinet et Frédéric l'entendit marcher longtemps avec agitation. Pendant le dîner, il fut calme, parla d'un second voyage en Italie, de faire des améliorations dans leur propriété, projet auquel Frédéric s'associa en apparence sans s'illusionner sur les intentions de son mari. « Il cherche à s'étourdir ou à me donner le change », pensait-elle. Le lendemain, elle commença nombre de visites avec l'idée que se montrer en public, c'était agir en bonne tacticienne. Mais la froideur, l'embarras de plusieurs personnes, la déconcertèrent. Elle était encore émue en rentrant chez elle. Le valet de chambre la prévint aussitôt que son mari la demandait. Fabien était devant son bureau, effondré, la tête dans ses mains. Quand il regarda sa femme, elle le vit si pâle, si défait qu'elle eut peur. « Mon Dieu, tu es malade ?»«
Ruinée !»«
Ruinée ? » répéta-t-elle tout bas. Il reprit sa pose accablée et le silence fut long jusqu'au moment où Frédéric dit d'un ton résolu « Eh bien, nous liquiderons, nous recommencerons sur nouveaux frais. »«
Tu crois cela ? » dit-il douloureusement. « Tu crois qu'on peut reprendre le chemin parcouru quand les forces s'amoindrissent ? »
L'oral l'avait bien jugé. Courageux quand le succès répondait aux efforts d'un travail intense, toutes ses énergies fléchissaient en face du désastre. Il savait que cette ruine, fût-elle momentanée, lui enlevait une partie de son influence et que, pour reconstruire, l'ardeur des années passées ne pourrait jamais se retrouver. Il appuya sur cette idée avec une vivacité irritée.
« Pourquoi, Fabien, pourquoi ? Désespère-t-on à ton âge ? Moi, je suis prête à travailler. »
« À travailler après des années de luxe et de bonheur, et nos enfants ?»«
Précisément, pour eux, il faut se ressaisir. Avec tes relations, ta valeur, il est impossible que tu ne sortes pas de cette phase pénible. Que de gens ont refait leur fortune. En attendant, nous nous restreindrons. »«
Nous nous restreindrons. Ce n'est pas assez dire. Il me faudra accepter une position subalterne. Je ne reculerai pas, mais quelle chute !»
Belle affaire que l'amour-propre ou la vanité. Moi, je m'en moque. Une chose aussi mesquine ne doit pas nous arrêter.
Mais ces paroles n'étaient pas prises au sérieux.
Garde les 200 000 francs, murmura-t-il.
À moins qu'ils ne te soient utiles, Fabien.
C'est assez que le reste soit dans le gouffre.
Le gouffre, le mot lui serra le cœur, car elle pensa à ses dettes qu'il épouvantait.
« Si nous ne devons rien, mon ami, dit-elle timidement, nous nous relèverons. »«
Nous ne devrons rien, je crois, en vendant tout. »«
Alors notre malheur est moindre. »
Le bilan fut dressé et Fabien déclara que pour faire face à ses obligations, une vente générale s'imposait.
« Vendons, répondit simplement Frédéric. »
Le soir de ce même jour, elle ne domina plus sa douleur, quand, regardant dormir ses enfants, elle les vit privés du bien-être, des joies que donne la fortune, privés peut-être dans l'avenir d'une instruction supérieure. Fabien la surprit dans ce moment de dépression.
« Tu voulais qu'ils fussent des travailleurs ? Ils le seront forcément, avec un métier, qui sait ? » dit-il abattu.
Elle s'était vivement redressée.
« Pas de découragement, mon ami, et remets-toi à labourer. »
« Oh, labouré, j'ai perdu la confiance en moi-même et surtout celle des autres. »«
Tu m'as dit que personne ne perdrait, c'est un point capital pour notre tranquillité morale. »«
Presque personne. »
Frédéric, ne relevant pas le mot, il se félicita qu'elle n'eût pas entendu.
« Quand nous étions riches, tu m'as donné des bijoux, ils aideront au règlement. »
« Même tes bijoux, ils t'avaient fait tant de plaisir.
Ils m'en feront encore plus s'ils te rendent service. Le plaisir, tu le sais bien, réside surtout dans tes attentions si aimables, si affectueuses, cher Fabien. »
Cette dernière assertion n'était pas d'une vérité absolue, car elle jouissait immensément des satisfactions de la coquetterie et de la richesse. Son mari la contemplait avec une affection admirative, mélangée d'une désolation profonde qui effrayait Frédéric.
« Tu pleurais quand j'étais surprise. »
« Voyons, Fabien, sois raisonnable. Évidemment, je n'envisage pas cette grosse épreuve sans chagrin, mais je la crois passagère et je t'assure que je ne suis nullement découragée. Débats-toi pour employer tes talents en attendant que tu puisses diriger. »
Mais Frédéric, dont le caractère s'adaptait si bien aux circonstances, ne pénétrait pas suffisamment dans la nature de Dauzac. Chez lui, un ressort se brisait et la jeune femme, dénuée d'une certaine vanité, ne voyait pas. Elle n'avait jamais connu l'amour du gain pour le gain, mais elle avait connu la pauvreté, les nécessités qu'elle impose, sans y voir quoi que ce soit d'humiliant. Elle trouva un réconfort dans l'attitude de ses excellents parents, et, avec eux, s'abandonna à sa douleur.
L'oral se garda de prononcer le mot exaspérant. « Je l'avais bien dit. » Il s'ingénia à maintenir sa fille dans la conviction que Fabien, à un moment donné, dominerait la catastrophe par son travail et son énergie.
« Où est-elle, son énergie ? Il s'abandonne à un abattement qui m'effraie. »
Premier instant, le coup est trop rude pour qu'il ne traverse pas une période de dépression. Il est trop travailleur pour ne pas réagir, et le travail lui rendra courage et confiance.
L'oral parlait contre sa pensée, car plus d'une fois, il avait dit à sa femme, Le succès l'enivre et nourrit sa vanité. Vanité naturelle, j'en conviens, mais trop grande en vérité. Que serait-il si des échecs graves l'atteignaient? C'était juger en homme très fin. Madame Loral pleurait sur le malheur qui réduisait à rien la magnifique situation de sa fille. Ce chagrin, exprimé par des larmes, remettait Frédéric de sang-froid. « Papa a raison, mère. Fabien remontera bien vite le courant. Ne pleurez pas. » Elle prit le bras de son père et l'entraîna dans la rue. « Voici la dernière fois que je me sers de mon auto, mais ce n'est rien comparé au reste. Ce qui m'inquiète tant en dehors de notre ruine... » Elle s'arrêta, dominée par son émotion. « Quoi, qu'y a-t-il ? Je crains que des gens ne soient lésés après avoir été entraînés par mon mari. Pourquoi le crains-tu ? As-tu des données ? J'ai demandé à Fabien si personne ne souffrirait. Il a répondu comme dans un rêve, « Presque personne. » Il a cru que je n'avais pas entendu parce que je n'ai pas relevé de réponse. « Presque. Le mot me hante. » Loral, comme tous les honnêtes petits épargnants, avait horreur de la moindre dette. Il connaissait les sacrifices, les économies que demande l'épargne et plaignait ceux qui, inexpérimentés et trop confiants, se voyaient frustrés. « La réponse de ton mari est vague. Ne t'inquiète pas sans avoir de certitude. Des actionnaires sont certainement entrés dans cette malheureuse affaire sans l'influence de Fabien. » Elle embrassa son père avec une émotion communicative. « Mes enfants, mes chers enfants !»« Nous sommes là, » répondit Loral qui parlait avec peine. La vente, commencée le lendemain, dura plusieurs jours. Elle apporta une somme suffisante pour parer aux dettes courantes et aux obligations d'une installation mesquine. Frédéric écrivit à son ami. « J'avais raison, chère Irène. Mes idées sombres étaient pressentiments et les pressentiments annonçaient de réelles tristesses. De grosses pertes nous obligent à changer notre manière de vivre jusqu'au jour où mon mari aura rétabli l'équilibre. Si je vous disais que je n'en suis pas peinée, vous ne me croiriez pas, mais j'envisage l'avenir sans défiance. Seulement, pour le moment, grand bouleversement, car nous déménageons, obligation toujours ennuyeuse. » Bien que très agitée par la transformation de notre vie matérielle, je me repose parfois en me transportant auprès de vous. Nous causons, assises sur des pierres usées, à l'entrée de ces maisons antiques dont les chambres étaient si petites. Nous aussi, nous aurons maintenant des chambres petites, petites, mais elles ne seront pas poétisées par les siècles, par les habitants que vous y voyez vivre. Fabien a reçu un mot de M. d'Hautefort qui parle de partir en avion pour l'Afrique. Au revoir. En bonne amie, j'ai voulu vous mettre au courant des événements, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un temps un peu dur et court à passer. Ma lettre est d'une amie confiante, en même temps d'une femme discrète, pensa Frédéric. Il s'était installé dans un de ces appartements mesquins qui attristent par leur vulgarité. « Installation provisoire, » répétait la jeune femme. « Dans quelque temps, nous en changerons si bon nous semble. »« Il nous semblera certainement, » répondit Dozac avec irritation.